Je voudrais parler de l'Église, ce que c'est que l'Église. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir ce que dit Jésus de l'Église. Savez-vous que dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, Jésus n'a parlé que deux fois de l'Église. Est-ce que vous le saviez? Par contre, il a parlé souvent à ses disciples, et ses disciples sont ceux qui ont bâti l'Église avec le Seigneur. Donc tous les enseignements qu'ils ont reçus sont pour l'Église. Hein. Mais Jésus n'a utilisé le mot « Église » qu'à deux reprises. Et c'est très 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 intéressant de voir dans quel contexte il l'a fait. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que c'est que dans l'évangile de Matthieu. Il y a le chapitre 16 qu'on connaît, cette réponse que Jésus va dire à Pierre quand il lui dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Moi je dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon... » Église. Alors ça, c'est la première parole. Mais on va s'intéresser à la deuxième qui est dans Matthieu chapitre 18. Et on va s'intéresser surtout au contexte. C'est tellement important de lire le contexte. C'est ce que m'a appris un de mes formateurs. Il m'a dit, et j'ai entendu cette phrase qui a été répétée aussi souvent, un texte hors de son contexte est un prétexte. Et c'est une réalité. Ce passage que l'on va lire... Certains l'ont pris et ont fait beaucoup de mal avec. Parce que, vous allez comprendre pourquoi. Mais le Seigneur Jésus, dans Matthieu chapitre 16, nous parle de celui qui bâtit l'Église. Et là, il nous montre quel est le moyen qu'il va employer pour bâtir l'Église. Alors on lit au verset 15, Matthieu 18, verset 15. « Si ton frère a péché, va et reprends-le, seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Amen. Incroyable. Je suis resté stupéfait quand j'ai réalisé ce que le Seigneur Jésus disait par rapport à l'Église. Il nous dit juste avant, je bâtirai mon Église, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'Église va être quelque chose d'inébranlable. Et on le voit malgré des persécutions, malgré les temps que l'Église a traversé difficiles dans les siècles passés, même dans notre pays de France où la vraie Église chrétienne a été persécutée à un moment donné par une pseudo-Église, même malgré tout ça, l'Église est encore là. Parce que c'est le Seigneur Jésus qui l'a bâtie. Mais ce qu'il veut nous dire dans ce passage-là, c'est que le moyen qu'il a donné à l'Église pour être inébranlable, ferme et grandir, c'est la discipline. Vous êtes prêts à entendre la suite? Parce que... Mais maintenant, il faut bien comprendre ce que le Seigneur veut dire. Il faut bien comprendre dans quel état d'esprit ces choses doivent être faites. Et tout le chapitre 18 nous montre l'état d'esprit dans lequel on doit appliquer la discipline. Je disais tout à l'heure que les églises, que ce soit nos églises assemblées de Dieu, mais même d'autres églises, ont mal appliqué ces principes et ont fait beaucoup de mal à des personnes. Parce qu'il n'y a pas la pensée du Seigneur dans la façon de faire. Mais qu'est-ce que le Seigneur entend par discipline? Qu'est-ce qu'il veut dire? Quel est son cœur? Comment son cœur bat-il quand il nous parle de ces choses-là? Alors, c'est très simple le contexte. Matthieu chapitre 18, verset 1er. Regardez, c'est quoi le contexte de ce que le Seigneur partage? À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Ça commence mal, hein? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit-enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit-enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. » Amen. Je disais, ça a mal commencé parce que si les disciples, dans cet état d'esprit-là, avaient appliqué la discipline, qu'est-ce que ça aurait amené comme dégâts en disant « Moi, je suis le mieux placé. Moi, j'ai fait ceci. Moi, par exemple, j'ai pris des... Moi, j'aime bien me représenter. Moi, je prie 3 heures par jour. Ah oui, mais moi, je loupe aucune réunion à la synagogue. Moi, je jeûne 3 fois par semaine. Moi, je donne temps pour les preuves. Moi, j'aide les veuves, les orphelins. Moi, je marchais sur l'eau il n'y a pas longtemps. » Chacun aurait pu dire son argument pour dire qu'il était le meilleur. Et ils étaient tous en train de faire ça. Et puis, Jésus arrive. Je pense que rien que la présence du Seigneur les a fait taire. Mais il arrive, lui, sans dire un mot, et avec un petit enfant dans la main, et il le place au milieu. Et il leur dit ces paroles. Ces paroles-là, qu'on vient d'entendre. Celui qui veut être grand dans le royaume de Dieu, qu'il soit comme un petit enfant. Parce que l'Église n'est pas un lieu où on se compare, n'est pas un lieu où on se confronte les uns aux autres. Ah, mais lui, il prie bien, ah, lui, il chante bien, lui, il fait ceci. Non, non, c'est pas ça. Tant mieux. On est reconnaissant pour les qualités des frères et sœurs. Enfin, je sais pas comment vous êtes, mais moi, je suis reconnaissant. Mais je suis pas là pour me comparer. Je suis là pour regarder au Seigneur. Et pour être dans la communion. Comment bien appliquer la discipline dont le Seigneur Jésus a parlé? Ben, déjà, il faut qu'il y ait. Que l'Église soit un lieu de communion, un endroit où on vient s'unir de manière surnaturelle, parce qu'on est tous différents, mais le Saint-Esprit nous unit parce qu'on a un même cœur, une même âme, pour le Seigneur Jésus. J'espère que c'est comme ça que vous êtes venus ce matin. Et à chaque fois qu'on vient devant le Seigneur, c'est dans cet état d'esprit-là. Mais Jésus a pris ce petit enfant en exemple parce qu'il y avait de la simplicité et de l'honnêteté. J'imagine la scène. Je me dis, qu'est-ce que l'enfant, au milieu de tous ces adultes qui parlaient fort, qu'est-ce qu'il pouvait dire? Qu'est-ce qu'il pouvait ressentir? Mais il pouvait dire, c'est le Seigneur, Jésus lui-même qui m'a placé là. Et en plus, ses paroles, elles sont en ma faveur. Quand il a placé, il a dit, regardez ce petit enfant, tout le monde le regarde. Il est plus grand que vous dans le royaume des cieux. Mais ça ne me rassure pas, ça, de savoir que c'est le Seigneur Jésus qui nous a placés dans un endroit, qui nous a placés dans l'Église, qui nous a intégrés à son Église, si ce n'est le Seigneur Jésus. Le jour où on a bien voulu qu'il le fasse, hein, attention, et d'ailleurs il est question de se convertir, de cette conversion. Le jour où nous nous sommes convertis, nous avons dit, Seigneur Jésus, je veux faire partie de ton Église. Et il l'a fait, parce qu'il nous aime, parce qu'il sait que c'est bon pour nous. Et les disciples, est-ce qu'ils étaient convertis d'ailleurs? Tiens. Est-ce qu'ils étaient déjà... Ils avaient la foi, déjà. Ben, ça faisait quand même déjà un moment qu'ils connaissaient le Seigneur. Moi, je crois qu'ils avaient la foi dans le Seigneur Jésus, qu'ils avaient compris beaucoup de choses, mais que sur ce point-là, ils avaient besoin de grandir encore. Et la conversion, bien sûr qu'à un moment donné, il faut se convertir par rapport à notre passé, par rapport au péché qu'on en a commis, mais tout au long de notre vie, on doit se convertir aussi. On doit revenir, nous recentrer. La conversion, c'est se centrer sur le Christ. Tout le long de notre vie, nous devons nous recentrer sur le Seigneur Jésus. Et Jésus prend l'exemple de ce petit enfant. Si vous ne vous convertissez et ne devenez comme les petits enfants, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. Ce petit enfant, placé là par le Seigneur, savait qui l'avait placé là. C'est le Seigneur Jésus qui nous a placés. Et c'est le Seigneur Jésus qui dit des paroles de grâce et de bénédiction sur ceux qui lui appartiennent. Vous avez vu tout ce que la Bible dit de ceux qui sont les enfants du Seigneur? Alors, on pourrait passer juste notre temps à énumérer les promesses et on serait bénis, hein. Justement, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Ça ne vous fait pas plaisir? Cette phrase, ce verset qui nous est rappelé par l'apôtre Paul, nous sommes déjà bénis parce que nous appartenons au Seigneur. Et c'est ça qui doit nous donner l'assurance, la présence du Seigneur et l'obéissance à sa parole. Parce que ce petit enfant, il était mis en évidence du simple fait qu'il avait obéi au Seigneur Jésus. Il avait accepté de faire ce qu'on lui demandait sans rien dire d'autre. Alors que les disciples, ils étaient en train de dire, c'est moi le plus grand, non c'est moi, non c'est moi. Non, on n'est pas là pour se comparer. On est là pour être dans la communion. Et la conversion nous permet d'être dans la communion. Quand les frères et sœurs sont vraiment convertis et qu'ils acceptent aussi de se remettre en question continuellement, ça favorise la communion. Mais il y a aussi d'autres choses, comme on a souligné, c'est cette humilité, l'humilité des uns et des autres facilite la communion. Si tout le monde veut dire qu'il a raison, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va s'apercevoir qu'on pense tous différemment. Mais si on veut tous, malgré nos façons de voir différentes, on veut tous revenir à la parole de Dieu, et ça va nous unir. Ça va nous permettre d'être un devant le Seigneur. Il y a un point très important qu'on a lu et que je veux souligner aussi, c'est le verset 5. « Quiconque reçoit en mon nom un petit enfant, comme celui-ci me reçoit moi-même. » Pour les disciples, le petit enfant, c'était quelqu'un de méprisable. Ça ne vaut pas la peine de s'en préoccuper. Mais je voudrais aller plus loin que cette parole-là. Je crois que notre communion en tant qu'Église peut grandir dans la mesure où nous savons accueillir, nous savons recevoir ce qui se présente, que ce soit dans l'Église bien sûr, mais même au dehors, cette façon d'accueillir les personnes. Est-ce que le Seigneur vous a bien accueilli? Amen. Ou est-ce qu'il s'est loupé sur la façon de faire? Non, c'est le Seigneur. On n'oserait même pas dire ça, parce qu'il est merveilleux, il est parfait. Et lui, il nous a accueillis tel que l'on est en plus, avec tous nos défauts. Hein. Il sait ce qu'il y a au plus profond de notre âme, mais il nous a accueillis magistralement. Et il désire que nous fassions de même. Parce que dans la plus petite personne que nous pouvons rencontrer, il y a l'image du Seigneur Jésus derrière. Et c'est important. Et une église qui veut grandir dans la communion doit grandir aussi dans l'accueil, dans la façon d'accueillir. Combien de fois, je vous l'ai déjà dit, mais combien de fois j'ai vu des églises qui ont loupé cette vocation-là de l'accueil, qui est tellement simple pourtant. Personne nouvelle se présente, ben on a envie d'aller la voir, lui dire bonjour, comment vous allez, etc. Et on se laisse conduire, mais montrer l'amour. Combien de fois j'ai vu des mauvais exemples et des bons exemples aussi, hein, des personnes qui m'ont dit « j'ai rien compris au message, mais j'ai senti l'amour par la conversation avec les uns et les autres ». Et je me suis donné au Seigneur après. Parce que j'ai vu que c'était quelque chose de réel, de vrai. La présence du Seigneur dans son Église se voit aussi dans la façon dont on accueille. Et regardez ce qu'il dit le verset 10, puisqu'on continue de dérouler le contexte. « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Gardez-vous de mépriser. « Oh Seigneur, mais je méprise personne, moi je suis gentil avec tout le monde. » Oui, mais parfois, en ne disant rien, en ne faisant rien envers une personne nouvelle, c'est comme si on la méprise. Donc, c'est pas juste d'avoir des bons sentiments envers, hein, mais c'est d'avoir aussi l'action. Alors, je peux pas pointer du doigt qui que ce soit ce matin, c'est pas le but, hein, mais c'est de souligner cet état d'esprit que nous devons être obéissants dans l'accueil. Parce que c'est ce que le Seigneur nous demande. On va lire un autre verset dans le verset 19 qui nous montre une autre façon d'être en communion. Un autre aspect plutôt de cette communion. C'est peut-être les versets de Matthieu 18 qu'on connaît le mieux. « Je vous le dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, « je suis au milieu d'eux ». Vous le connaissez ce verset, hein ? On le répète souvent et on a raison parce que c'est un bon verset qui est merveilleux, soit dit en passant, mais qui nous montre aussi cette communion que le Seigneur Jésus attend de nous. La communion, elle se trouve aussi par cette prière où on est en accord les uns avec les autres. Il ne suffit pas de prier sur le même sujet pour être en accord avec quelqu'un. Vous êtes d'accord avec ça ? Je me souviens d'une dame qui demandait qu'on prie pour que son mari inconverti puisse se convertir. Est-ce que c'est bien ?
Oui.
Ben oui. Mais quand on a creusé, et ça faisait des années et des années qu'on creusait pour voir pourquoi elle priait pour ça, en fait elle a dit, voilà, je voudrais qu'il m'amène à l'église parce que là il est mal disposé, il me traite mal. En fait, tout... C'était des choses intéressantes qu'elle disait, mais ce n'était pas centré sur son salut, ce n'était pas centré sur le fait qu'il loupait la vie éternelle. Et quand même, c'est ça la priorité. Le reste, c'est important, attention, c'est très important. Mais finalement, les prières qu'elle faisait monter, je veux le dire très clairement, c'était très égoïste. C'était pour elle, pour sa convenance, comme ça il me portera à l'église, comme ça je me lèverai moins tôt le matin. Non, on veut prier pour le salut des âmes parce que les âmes sont perdues, c'est tout. Et quand elle a changé sa façon de faire, eh bien son mari a accepté de venir à l'église peu de temps après, quelques semaines après. quand on s'est accordé dans la prière, les choses ont changé. Parce que c'est ça que le Seigneur attend de nous, que l'on soit accordé. Si deux d'entre vous s'accordent, quand on étudie le mot qui est utilisé dans le grec, c'est intéressant parce que c'est le mot qui a donné symphonie. Et on comprend mieux le fait de s'accorder. Ça veut dire produire le même son. La symphonie doit produire ce son qui est en accord les uns avec les autres. Si les instruments ne sont pas accordés au même diapason, eh bien, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas, ça fait mal aux oreilles. Il faut aussi jouer la même partition. Parce que tout le monde peut être bien accordé, mais si on ne joue pas les mêmes partitions, si on ne joue pas la même tonalité, là c'est pareil, ça fait une cacophonie. Alors là, je parle peut-être à des musiciens hein, qui vont mieux me comprendre, mais c'est important de jouer sur la même partition. Notre partition, elle est là entre nos mains, c'est la parole de Dieu. Nous devons être centrés sur la parole de Dieu. Nos prières doivent être reposées sur les promesses de la parole du Seigneur. Et il faut aussi qu'on joue au même moment. Parce qu'on peut être accordé, jouer la même partition, mais si on est décalé, même un tout petit peu, ben ça fait un bruit mauvais. C'est pareil. Et spirituellement, c'est la même chose. On doit être dans ce temps. Quand il y a ce temps de prière, on doit être ensemble dans la prière. Alors bien sûr que dans nos possibilités, mais c'est important d'être unis, d'être en communion. Et le Seigneur nous donne cette promesse. C'est là qu'il est. Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il y a une réalité, et je le répète souvent, j'ai dû encore le dire à quelqu'un il n'y a pas longtemps, il y a une réalité qu'on ne vit jamais tout seul dans notre maison. Dans notre maison, on a la joie, la grâce de vivre Dieu en nous. On est d'accord ? Dieu en nous. Mais on ne vivra jamais dans notre maison Dieu au milieu de nous. Parce que ça, c'est réservé au rassemblement, à la communion. Quand on est deux ou trois, c'est suffisant, mais Dieu est au milieu de nous. C'est une dimension encore supplémentaire. Alors, bien sûr, le Seigneur sait, quand les gens sont persécutés, qu'ils ne peuvent pas se rassembler, il sait. Il nous a donné Dieu avec nous pour qu'on puisse tenir bon malgré tout. Mais quand on a cette possibilité, comme on le fait ce matin, de se réunir, Dieu est au milieu de nous. Et tout peut arriver. Parce que le Seigneur est tout-puissant et c'est ça que Jésus appelle l'Église. Une Église, c'est un lieu de communion. Une Église, c'est aussi un lieu de décision. Regardez le verset 7. Je continue de dérouler le contexte. Malheur au monde à cause des occasions de chute ou des scandales, suivant les versions. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Amen. Des paroles fortes, hein, mais qui sont nécessaires. Parce que l'Église doit être aussi un lieu de décision. En tant que membre de l'Église du Seigneur, je refuse d'être un scandale. Vous êtes d'accord avec cette décision-là ? De dire clairement, en tant que membre de l'Église du Seigneur, je refuse d'être un scandale. Un scandale, littéralement, c'est une pierre sur le chemin qui fait trébucher. Et de manière très concrète et pratique, un scandale dans l'Église, c'est un chrétien qui éloigne les gens de Dieu plutôt que qui les amène à Dieu. D'accord ? Voilà pourquoi l'Église est ce lieu où on décide, où on refuse, où on dit « Non, je ne veux surtout pas vivre ça ». Souvenez-vous que Jésus est en train de parler à ses disciples qui pensent qu'ils sont meilleurs les uns que les autres et qu'il y a ce petit enfant qui est au milieu. Et il leur dit « Non, mais gardez-vous d'être un scandale pour les petits. Gardez-vous d'être un scandale pour quelqu'un peut-être qui n'a pas beaucoup, qui découvre le Seigneur, qui manque encore de maturité. » Et il nous invite, avant de nous occuper de la discipline dans l'Église de notre frère qui a péché, il nous invite à regarder en nous s'il y a un scandale en nous. Là, c'est intéressant aussi, parce que combien de fois on a peut-être vu des personnes aller corriger d'autres personnes alors qu'il y a un scandale en eux. Vous savez, il y a une réalité comme ça. Alors, je l'ai marqué pour le dire très clairement, celui qui reste indécis face à ces scandales risque fort de devenir lui-même un scandale. C'est pour ça qu'on a besoin d'une décision. Et là, je m'adresse à chacun, mais je m'adresse à moi-même aussi. Gardons-nous, les uns et les autres, d'être un scandale. Si nous voyons en nous quelque chose, alors réglons cela devant le Seigneur. S'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas, mais gardons-nous de rester indifférents, au contraire. Disons, Seigneur, je veux trancher avec cela. C'est pour ça qu'il est question d'arracher, de couper. Alors, on sait que ce n'est pas de manière physique, hein, heureusement, mais c'est spirituel. C'est décider de couper avec ses mauvaises habitudes, avec ses pensées, avec ces choses qui nous souillent à l'intérieur et qui nous empêchent par la suite de bénir l'Église. Nous sommes en communion, nous voulons être en communion, mais si on laisse des racines mauvaises en nous, on risque même de faire du mal à ceux qui sont autour. J'aime cette pédagogie du Seigneur. Il a dit d'ailleurs d'une autre manière dans Matthieu toujours, si tu vois la paille qui est dans l'œil de ton voisin et que tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil, c'est la même pensée qui est là. D'accord ? Combien on a intérêt de regarder, avant d'aller au verset 15, de regarder à ce verset 7 et 8, c'est ce qu'on vient de lire, hein. Cette main ou ce pied, ou cet œil, peu importe, on voit que ça peut toucher n'importe quoi dans notre vie, mais à laisser le Saint-Esprit sonder notre cœur, dire Seigneur, je veux être saint. Est-ce que c'est une bonne demande? Je veux être saint. Je ne veux pas que quelqu'un sur la terre me désigne par un comité, un vote, oh, ça y est, ils sont saints. Comme ça se fait à certains endroits, ce n'est pas ça. Par la grâce du Seigneur, on est saint. Mais je veux marcher dans la sainteté, de progrès en progrès. Et je veux prendre ces bonnes décisions qui me permettent d'avancer avec le Seigneur. L'Église, c'est ce lieu de décision, c'est aussi un lieu de progression. Si nous voulons progresser, le Seigneur nous donne ce moyen incroyable. Parce que c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, la discipline. Quand on a compris que la discipline, c'est un moyen de progresser, alors on a tout compris. Parce que c'est exactement la pensée du Seigneur. Le Seigneur ne parle pas de châtiment corporel, ne parle pas de punition, ne parle pas d'excommunication, c'est pas ça dont il parle. Il parle d'un seul moyen qui va nous permettre de grandir ensemble, de corriger s'il y a besoin de corriger certaines choses, mais que ça permette d'aller dans ce bon élan. Et quand on note dans le passage, notez-le, faites-le, regardez tous les versets, tout ce qu'on vient de lire, toutes les qualités que le Seigneur demande avant d'appliquer la discipline, on voit qu'il a bien préparé le terrain. Mais allez, on en lit un autre pour être sûr qu'on ait bien compris. Verset 12. Juste avant de parler de la discipline, regardez ce que dit le Seigneur. C'est une histoire qu'on connaît par cœur. Qu'en pensez-vous si un homme a 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il parvient à la retrouver, en vérité, je vous le dis, il s'en réjouit plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Amen. Amen. On aime cette parabole, hein, parce qu'elle nous montre quoi ? Jésus-Christ, qui est le bon berger, qui prend soin de ses brebis, qui a ce cœur de compassion, ce cœur qui bat pour ses brebis. C'est ça qu'on voit, hein ? On est d'accord ? C'est l'état d'esprit que le Seigneur demande pour que nous appliquions les versets qui suivent. Cette discipline de corriger s'il y a besoin de corriger, etc. De quelle manière est-ce que le Seigneur Jésus agit aujourd'hui ? Est-ce qu'il est toujours là, présent en chair et en os? Justement, juste après ce qu'on a lu, il va dire « Je suis au milieu de vous ». Mais au milieu de qui? Au milieu de son Église. Comment le bon berger cherche les brebis aujourd'hui? Au travers de son Église qui applique la discipline. Et ça nous montre l'état d'esprit. Je ne veux pas perdre les personnes, je veux gagner, je veux ramener celui qui est égaré. Mais pour le ramener, il faut que ça soit fait dans ce contexte qui nous est donné par le Seigneur. Alors, souvent, j'entends ça, je décris ça, et puis les gens me disent « Ah là là, pasteur, qu'est-ce que vous avez du travail ? Bon courage, parce qu'il y a des situations difficiles. » Et quelqu'un me disait, il n'y a pas longtemps encore, me disait quelque chose de... On n'imagine pas l'état d'une église. Me disait que dans cette église-là, il n'y avait pas un couple qui n'était pas dans l'adultère. dans une église. Vous imaginez ? C'est quelque chose d'incroyable. Parce que il y a des choses qu'on a laissées passer. Parce qu'on a oublié ces textes. Et justement, les gens disaient, mais c'est au pasteur de s'en occuper. Et peut-être que le pasteur, il n'avait pas trop de courage, il ne l'a pas fait. Mais moi, j'aimerais vous dire, oui, c'est au pasteur. Oui, mais ce n'est pas que au pasteur. Est-ce qu'il est marqué, si ton frère a péché, toi qui es pasteur, va et le reprends-le. Vous avez cette version-là ?
Non.
Français très très courant et très très, ça ne me concerne pas. Non, non. Si ton frère a péché, va et reprends-le. Et ça commence là, frères et sœurs. Je veux dire que la discipline dans l'Église commence par chacun de nous. Ça veut dire que cette responsabilité, elle ne repose pas que sur les pasteurs, mais elle repose sur chaque personne. Et il y a eu des églises, comme je dis, où les gens ont préféré se taire plutôt que de dire ce qui se passe à leurs frères. Avec ce sentiment, avec cette compassion, avec cette réalité que je ne suis pas meilleur, je ne suis pas plus grand, je ne vais pas lui apprendre, je ne vais pas lui faire la leçon, la morale. Non, je veux le gagner. Mais je suis obligé de le dire. Quand j'aime vraiment quelqu'un, le Seigneur va me pousser à dire la vérité. Parce que je l'aime, parce que je ne veux pas que ça reste comme ça. Et quand on dit les choses avec amour, parfois ça fonctionne, parfois la personne en face s'endurcit. Hein. Mais ça ne nous appartient pas. Ce qui nous appartient, c'est de parler avec ce désir de gagner. Mais nous devons le faire. Nous devons avoir ce désir de gagner notre frère. D'ailleurs, c'est bien précisé. Merci Seigneur. Il sait comment nous parler. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Voilà le but. C'est de gagner ceux qui nous écoutent. Mais parfois, les personnes ne nous écoutent pas. Et à ce moment-là, on est obligé de demander à des témoins. Des personnes, quand la Bible parle de témoins, ce sont des personnes de confiance. Ce sont des personnes qu'on sait qu'ils vont rester discrètes, qui ne racontent pas l'histoire sur Facebook une heure après qu'ils ont entendu l'histoire, d'accord ? Mais non, ça, c'est pas ça. Il faut que ça soit dans cette discrétion. Et c'est pour ça que dans ce contexte-là, c'est souvent le pasteur à qui on fait appel. Et c'est bien, parce que c'est aussi le rôle du berger, de l'Église, d'intervenir. Mais ça peut être un ancien, quelqu'un qui a cette place dans l'Église reconnue par tous. Ça peut être quelqu'un avec qui on a la confiance, qu'on sait qu'il ne va pas ébruiter la chose. Mais en tout cas, quand la personne renonce à se repentir à ce qu'on lui a dit, il faut aller voir, il faut aller plus loin, il faut demander l'aide d'autres personnes. Et puis, c'est à ce moment-là que le Seigneur dit, si elle ne veut pas t'écouter, dis-le à l'Église. J'ai rarement vu, mais ça arrive parfois, qu'on soit obligé de dire à l'Église. Ça arrive. Mais ça signifie quoi ? Ça signifie simplement que la personne n'a pas voulu se repentir. Moi, je crois qu'avant qu'une personne, un frère ait à cœur d'aller la voir, il y a le Saint-Esprit qui lui a tapé à la porte plusieurs fois en disant « Attention, tu es sur un mauvais chemin. » Je crois que le Seigneur, il n'a pas besoin d'envoyer forcément des personnes, mais il les envoie parce qu'on n'a pas voulu l'écouter, lui. Et du coup, il est obligé de faire ce processus-là. Mais c'est toujours pour bénir. Et d'ailleurs, la dernière chose, c'est traite-le comme un païen. Comment vous traitez les païens ? Est-ce que vous les haïssez ? Est-ce que vous voulez plus les voir ? Est-ce que vous voulez fermer leur porte, à votre porte envers eux ? C'est comme ça que vous traitez les païens ? Ici, à Nogaro ? Non. Mais Jésus l'a dit, mais même si c'est ton ennemi, aime-le. D'accord ? Traiter comme un païen, ça veut juste dire, vu qu'il a refusé toutes ces étapes de se repentir, qu'il a endurci son cœur, considère-le comme s'il ne fait plus partie de l'Église. Et il dit quelque chose qui est très mal compris encore une fois. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Bon, il y en a qui ont tordu ça en parlant de puissance et de liens spirituels et des choses comme ça. Là, ça n'a rien à voir. Hein. Là, c'est les décisions qui sont comme des liens que l'on met sur les personnes. D'accord ? C'est juste une expression hébraïque pour dire une décision qui est rendue, de lier les choses. Ça veut dire donner une déclaration par rapport à une situation. Et ce qui est intéressant, c'est... Moi, personnellement, c'est un verset que j'ai jamais aimé, tel quel. Je ne sais pas vous. Parce qu'il prête à confusion. Et un jour, quelqu'un m'a dit, mais regarde dans le grec. Tu vas voir que dans le grec, le temps qui est employé, il n'est pas bien traduit dans cette version en français. Et je suis allé voir,
Et en fait, c'était dit, ce que vous lirez sur la terre aura déjà été lié dans le ciel. Ah, là, je préfère. Parce que ça donne comme quoi tout ce que l'Église va dire, elle est infaillible, elle peut dire tout ce qu'elle veut, Dieu va se synchroniser avec ce qu'on dit. Non, non, c'est le contraire, ce qu'a souligné d'ailleurs Jean-Louis tout à l'heure. C'est à nous de nous synchroniser. Et quand il y a une situation compliquée comme ça, à nous de chercher la pensée de Dieu. Quelle est la pensée que Dieu a dit sur cette situation et à la délivrer par la suite. Mais ça nous garde en dépendance de Dieu. Ça nous garde dans cette soif et cette recherche du Seigneur. Parce qu'on n'est pas infaillible. Et on a besoin de sa grâce et de son aide. Je veux terminer. Alors, on n'aura pas le temps de lire toute la parabole qui termine Matthieu chapitre 18. Vous la connaissez, cette parabole du serviteur impitoyable, qui avait une grosse dette, qui s'est fait effacer la dette, et qui, par contre, il a trouvé quelqu'un qui lui devait un petit peu d'argent et qui l'a mis en prison. Mais regardez ce que dit Pierre au verset 21. Après tout ce qu'on vient de partager, hein, Pierre s'approcha et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Pierre vient d'entendre comme quoi l'Église, c'est un Dieu où il y a la discipline, mais dans la compassion, dans l'accompagnement, etc. Et il dit, mais pour moi c'est difficile. Bon, si c'est 1 fois, ou 2 fois, ou 7 fois d'affilée, ça va, mais si c'est, combien de fois? Et Jésus lui dit, 70 fois, 7 fois. Tout ça pour dire, parce que le chiffre 7, c'est la perfection, pour dire infiniment. Infiniment. Alors, bien sûr, de manière pratique, si la personne 70 fois, 7 fois dans la journée vient vous voir, ça, c'est qu'il y a un problème quelque part. Hein. D'accord, c'est une façon de parler. Mais ça nous invite à avoir toujours cette attitude de vouloir gagner les personnes. Mais de les gagner pas avec une gentillesse et une bonté naïve, avec une compassion et une bonté appuyée sur la parole de Dieu et sur ce qu'il nous indique de faire. Et là, il nous montre le Seigneur Jésus au travers de cette parabole que je vous invite à lire à la maison pour bien vous rafraîchir la mémoire. Il nous invite à nous souvenir que l'Église est un lieu de pardon. L'Église est un lieu de pardon. Et s'il y a quelque chose qui nous empêche de pardonner, frères et sœurs, nous sommes en danger. Regardez, on lit juste la fin, verset 35. « C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur en plus. » C'est pas juste pardonner du bout des lèvres, hein. C'est ça, je te pardonne. Mais j'oublie pas. Non. Tout mon cœur, je te pardonne. Tu m'as fait mal, etc. On n'est pas obligé de le dire, ça. Hein. On le dit à nous-mêmes. Je te pardonne. Je te pardonne. Parce que je veux être quelqu'un qui appartient à l'Église. Je veux être membre de cette Église où le Seigneur manifeste sa présence, où le Seigneur est au milieu de nous. Je vous donne, juste pour terminer, un témoignage de quelque chose qui vient de se passer dans une Église qui illustre très bien ce qu'on est en train de partager. Une jeune femme qui ne connaissait pas le Seigneur entretenait une relation adultère avec un homme marié. Et ça durait depuis des années, et ça mettait le conflit dans le couple du monsieur. Et le monsieur ne voulait pas se positionner, il a même eu un enfant avec la femme donc avec qui il commettait l'adultère. Et ça se passait très mal pour tout le monde. Et à un moment donné, cette femme-là, qui avait des espoirs mais qui était jamais... qui avançait jamais, elle s'est dit ça suffit, j'en peux plus. Elle s'est souvenue de son enseignement religieux qu'elle avait reçu et dans sa chambre elle a prié de tout son cœur sans qu'on lui dise trop quoi faire, mais c'est sa douleur qui l'a poussée à genoux et qui lui a demandé de crier à Dieu. Et dans sa chambre elle a été visitée par le Seigneur. Elle a compris qu'il fallait qu'elle règle les choses dans sa vie. Elle a compris que ce qu'elle faisait, c'était mal. Cette relation, elle était mauvaise. Et elle a décidé de finir, de clore cette relation. Elle a envoyé le texto ou le message à la personne pour que ça soit fini. Et puis, elle a compris aussi dans sa chambre qu'elle a vécu quelque chose qui lui a montré que le Dieu dont on lui a parlé enfant, il y avait quelque chose de plus que ce qu'on lui avait dit. Dieu était plus grand. Et elle s'est dit, il faut que je trouve une église, mais une église évangélique. Et elle est donc arrivée, quelqu'un lui a conseillé, une église évangélique de la région, Midi-Pyrénées. Je ne vous cite pas plus. Hein. Et donc, elle est allée à l'église et elle a entendu la parole, elle a compris que c'était ça qu'elle avait besoin. Et le pasteur, en parlant avec elle, il a vu que c'était une dame qui était convertie. Elle avait fait la paix avec Dieu, elle avait vécu vraiment quelque chose de fort dans sa chambre, et maintenant elle avait besoin d'instruction pour aller jusqu'au baptême. En parlant avec elle pour le baptême, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans son cœur, elle avait un poids. Elle a dit, « Monsieur le pasteur, il faut que je vous avoue quelque chose. Dans votre église, il y a la belle-mère du monsieur avec qui j'ai commis l'adultère. Mais elle ne sait pas qui je suis. Mais moi, je ne sais pas, est-ce que je dois lui avouer que c'est moi, la personne qui a fait souffrir sa fille? Est-ce que je dois lui dire, est-ce que je ne dois pas lui dire? Parce que maintenant, on va être dans la même église, on va se voir tout le temps, et pour moi, c'est comme un poids sur mon cœur. » Alors le pasteur lui a dit, « Mais je ne vais pas vous donner un conseil, je vais prier avec vous, et puis le Seigneur vous guidera. » Donc ils ont prié, et en rentrant chez elle, elle a eu une conviction qu'elle devait avouer la chose à la personne. Cette dame, c'est une chrétienne fidèle de l'Église qui priait, qui avait un bon témoignage, mais combien de fois elle avait accueilli sa fille en pleurs par rapport à la situation. Donc il y avait une vraie crainte qui était là. Et donc un jour, elle prend son courage à deux mains, elle a prié tout ce qu'elle pouvait pour préparer l'entretien. Mais elle allait voir cette dame et elle lui dit, « Voilà, madame, je suis la dame avec qui votre gendre a commis l'adultère. Et je veux vous demander pardon pour tout ce qui s'est passé. Et voilà, c'est moi qui vais me faire baptiser prochainement. » Et là, la dame de l'église s'est mise à pleurer. Et puis elle a dit, « Est-ce que votre fille est là ?» Alors, elle ne comprenait pas trop pourquoi. Elle a dit, « Oui, est-ce que votre fille est là? Je voudrais la voir, je la connaître. » Il dit, « Non, non, je ne l'ai pas amenée cette fois-ci, je l'ai faite garder, mais je vous la présenterai. Parce que ça fait des années que je prie pour vous, madame. Ça fait des années que je prie pour votre salut. Ça fait des années que je prie pour votre enfant. Ça fait des années que je demande au Seigneur de toucher votre cœur et que vous puissiez venir à la connaissance de la vérité. Et là, vous vous présentez devant moi et vous me dites, je vais me faire baptiser, j'ai fait la paix avec Dieu. Vous ne pouvez pas savoir comment je suis heureuse. » Et elle lui a dit, « Avant que je vous connaisse, je vous avais déjà pardonné. » Frères et sœurs, l'Église est un lieu de pardon. Et cette femme savait ce que ça voulait dire. Elle a compris. Des personnes qui, sans la foi, se seraient peut-être fâchées, se seraient criées dessus, ils étaient unis d'un même esprit, faisant partie d'une même famille, par la puissance du Saint-Esprit. C'est ça l'Église, frères et sœurs. C'est ça l'Église. Oui, il a fallu que cette dame règle sa vie. Il a fallu que des choses soient faites selon la parole de Dieu. Mais c'est pour amener une grâce, une paix et une bénédiction. Je crois que le Seigneur veut nous visiter parce que nous avons tous à cœur d'être cette église que le Seigneur attend. Alors, soyons-le et voyons la bénédiction du Seigneur sur nos vies et sur notre ville aussi, sur les villages où nous habitons. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Oui, Seigneur, nous entendons cet appel vibrant que tu nous lances, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui veut bâtir ton église, qui veut la rendre inébranlable, ferme, solide, Seigneur, quels que soient les temps que nous traversons. Tu es ce Dieu-là qui veut, Seigneur, bénir ton Église. Et tu nous as donné ce moyen. Oui, Seigneur, que nous avons besoin de ta sagesse, de ton intelligence pour le mettre en œuvre. Mais nous ne voulons pas passer à côté, Seigneur. Nous voulons être une source de bénédiction, d'encouragement, d'accompagnement, Seigneur, pour ceux peut-être qui se sont égarés ou ceux qui font des mauvais choix, Seigneur. Aide-nous à avoir cette parole à propos, cette parole abondante, Seigneur, remplie des conseils de grâce qui sont accompagnés de tes promesses aussi, Seigneur. Donne-nous aux uns et aux autres ce cœur rempli de compassion pour chercher celui qui est perdu. Oh Seigneur, aide-nous à marcher dans tes traces, à marcher Seigneur dans les traces que tu nous as laissées par ta parole. Te bénissons Seigneur, oui, que ces temps soient aussi des temps de décision, de refuser d'être des scandales, de refuser d'être des pierres d'achoppement pour qui que ce soit, d'être Seigneur des hommes et des femmes qui brillent de ta lumière par ta grâce. Oui Seigneur, nous voulons être en communion les uns avec les autres, nous voulons que rien dans ce monde ne nous sépare les uns avec les autres, et rien ne nous sépare de toi aussi. Tu vois, ceux qui peut-être qui ont besoin de pardonner, de retrouver ce pardon véritable. Oh Seigneur, que tu puisses donner la force et le courage pour le faire, pour prendre cette bonne décision. Oh Seigneur, tu vois ceux qui ont besoin de faire des progrès dans l'accueil. Seigneur, tu connais chacune de nos vies et tu nous donnes selon nos besoins, Seigneur. Te bénissons dans ces moments. Et nous croyons que dans cette prière, dans cette communion qui est d'un même accord, nous sommes d'accord, Seigneur, avec les choses que nous partageons, que là, tu veux manifester ta présence, que tu veux manifester que tu es au milieu de nous, Seigneur. Alors bénis-nous, Seigneur. Merci, Éternel. Amen.